Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Nouveau numéro de la loi des séries. Vous le savez, 26 minutes de face à face avec celles et ceux qui font l'actualité des séries. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un petit bijou que vous allez découvrir. J'ai pas peur de le dire, l'une des meilleures séries françaises de ces 10 dernières années qui débarque sur France.tv et la semaine prochaine sur France 2. Voici à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Enchaîné.
Interdiction de parler, interdiction de chanter. Vous travaillez et vous la fermez.
Si vous cueillez moins de 30 livres par jour, ce sera 10 coups de fouet.
Il m'a regardé droit dans les yeux. Je crois qu'il a compris.
Quoi ?
Est-ce que c'est mon père ?
Tu seras peut-être affranchi un jour.
Vous attendez quoi de moi ?
Que tu restes loyal.
Revoir le bâtard avec sa mère, je m'en passe volontiers.
Hors de mon chemin, sale nègre !
Tu veux la liberté ? Prends-la.
On a eu une révolte des Noirs hier.
Depuis combien de temps vous m'indigancez dans mon dos?
J'en ai assez d'être une épouse parfaite. Tout ce qu'on a, c'est maintenant.
Si tu as la mauvaise idée de retrouver ce nègre, je lâcherai à vos trousses tous les chasseurs de l'île. Je laisserai ma fortune s'il le faut, mais je vous retrouverai.
J'ai tellement peur de ce qui va se passer maintenant.
Moi, je suis quoi pour vous? Un homme? Bon nègre.
Enchaîné, 6 fois 52 minutes qui s'intéresse à l'esclavage sur l'île Bourbon, La Réunion, donc au début du 19e siècle. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir celle qui a été chargée d'être la chef d'orchestre de cette série réalisation. Et on va le voir, ça a été tendu sur l'île de La Réunion pour tourner cette série. Lord Butler, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir. On vous avait reçu il y a quelques temps pour une autre mini-série, La Promesse. Et on avait déjà été bluffés. Et puis, on vous doit aussi 37 secondes l'année dernière sur Arte. En face de vous, celui qui, à mon avis, va être la révélation de cette série. Vous le connaissez si vous suivez, évidemment, Demain nous appartient sur TF1. Mais il brille, il excelle dans cette mini-série enchaînée. Enzo Rose, merci d'être là.
Merci à vous.
Et je suis ravi vraiment de vous accueillir parce que, je l'ai dit, c'est incroyable ce qui se passe dans cette série. Et surtout avec une économie de mots. Notamment concernant votre personnage, qui est assez remarquable. Faire passer tout ça juste avec les émotions, le jeu, le regard, j'imagine que quand on est un jeune comédien, c'est à la fois génial et en même temps un sacré défi.
Évidemment, mais bon, j'ai été bien dirigé, ça qui est cool. En tout cas, merci beaucoup.
Alors, s'intéresser à un sujet sur l'esclavage, autant dire que c'était pas gagné d'avance. Ceci dit, quand on sait que c'est Tetra Media qui est à la manette, eux qui avaient déjà réussi à ausculter la Seconde Guerre mondiale sous un prisme de gris, de zone de gris qui était complètement culottée déjà à l'époque, c'était un sacré défi. Ça reste quand même un défi de s'intéresser à l'esclavage en 2025, en 2026 ?
Oui, bien sûr, parce que la résonance avec l'actualité, elle est permanente. Il y a un souci de devoir de mémoire, d'une part, et puis aussi de confrontation avec la société d'aujourd'hui. Et surtout par les temps qui courent, c'est un sujet qui reste extrêmement délicat, mais nécessaire.
Quand on s'empare de ce sujet-là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? D'entrée de jeu, on se dit, ça maintenant, on est en 2025, on ne peut plus le faire, on l'aurait peut-être fait il y a 10 ou 15 ans. Est-ce qu'on peut, par exemple, le côté très, très romanesque, très joli qu'on aurait pu imaginer, ça, voilà, par exemple, ça, on met de côté ?
Le romanesque, il existe encore un petit peu dans la série. L'idée, c'était vraiment de s'emparer de la fiction aussi. Alain Moreau, l'auteur, qui est lui-même réunionnais, avait surtout envie de raconter une histoire qui se passait sur son île, mais qui questionnait surtout les liens humains. Et les liens humains, ils sont questionnables quelles que soient les époques. Et c'était vraiment de questionner qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres, qu'est-ce qui nous sépare aussi, que ce soit les liens matrimoniaux, les liens pécuniaires, les liens... fraternelle, les liens de père à enfant ou de mère à enfant. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, je veux parler de ces gens-là, je veux parler de cette question du lien. Et il se trouve que j'ai décidé de le faire en 1806, pendant cette période-là et durant sur l'île de La Réunion. Mais l'idée, c'était vraiment de ne pas forcément avoir cette charge de la responsabilité et de faire une série Wikipédia sur l'esclavage. C'était vraiment de se dire, voilà, ça se passe pendant cette époque-là, sur cette île-là, et du coup, de quelle manière ça résonne auprès des personnages.
Est-ce qu'on se sent un devoir de... j'adore cette photo-là qui est derrière, qui est assez incroyable. Et on se sent un devoir de... Sinon, de modèle, en tout cas de représentation, quand on a quand on est un jeune homme dans la vingtaine et qu'on s'empare d'un sujet comme ça et qu'on devient carrément quasiment une figure d'exemple dans cette série en incarnant ce personnage-là. Isaac, on se sent un devoir de représentation de quelque chose de particulier. C'est une pression qu'on se met quand on commence à jouer ou surtout il faut pas y penser.
Alors personnellement, moi j'avais une pression parce que oui, le sujet est déjà hyper important. Il me tenait à cœur, notamment parce que ça fait écho. Déjà, moi j'ai des origines martiniquaises, donc ça on se le transmet de génération en génération, quoi. C'est quelque chose qui a perduré, qui a duré beaucoup trop longtemps. Donc oui, aborder ce sujet-là, de part avec ce côté personnel, ça me mettait une certaine pression, mais que j'ai su accueillir positivement, et surtout que j'étais très bien entouré, quoi. Laure, Olivier, Elsa, j'étais avec des comédiens, comédiennes, une équipe technique formidable, que ce soit même ceux qui étaient à La Réunion, Lolita, enfin on m'a vraiment accueilli, elle m'a offert un petit dictionnaire de mots créoles réunionnais pour vraiment que je puisse m'adapter quand ils parlaient même entre eux, quoi, que je puisse comprendre, que je fasse plus qu'un avec ce personnage tout au long de la série.
Dans tous les sens du terme, c'est un personnage qui est un personnage de liant et de pont entre tous, finalement, parce que on va expliquer juste de quoi ça parle en deux mots, mais on est donc sur une plantation en 1806, et Isaac on comprend dès le premier épisode, issu d'une relation pas consentie entre le directeur de la plantation que joue Olivier Gourmet et sa maman qui est esclave, et il va vite obtenir le poste de commandeur, qui est en fait celui qui est chargé de faire les sales besognes à ceux qui sont comme lui, esclaves, c'est-à-dire les coups de fouet, la discipline, tout ça, et en même temps de savoir quelle attitude avoir vis-à-vis de celui, je ne sais pas si on peut l'appeler père, mais en tout cas, qui est celui à qui lui doit d'être là aujourd'hui. Et c'est toute la question de l'émancipation de Isaac pendant 6 épisodes, quoi. Et il passe par des stades qui sont... ouais. On l'a vu, j'ai vu quand on le voit te faire fouetter et tout, quand on y repense, même si c'est de la télé, du cinéma, j'imagine que c'est des séquences qui résonnent et qui, à tourner, doivent être compliquées. Alors...
Oui, ça a été, c'était des journées très émotionnelles pour tout le monde. Dès la veille, tout le monde savait, ah, demain on fait ces scènes-là. C'était des gros enjeux. Et puis la plupart, en plus, on avait, c'était des scènes, on a mis une journée par scène, ce qui est extrêmement rare en économie de série. Oui. Donc toute la production savait que, et toute l'équipe savait que c'était vraiment des enjeux très importants qu'il fallait pas rater. Et donc ça crée une espèce d'atmosphère comme ça de surattention, je dirais, sur le plateau tout au long de la journée, où tout le monde était un peu dans un état de fébrilité. Mmh. Et le soir, on avait besoin de décompenser. Donc on mettait de la musique. Et ouais. Dès que la journée se terminait, on mettait de la musique. Laurent Cercleux, notre ingé son, sait que j'adore ça. Et on mettait la musique et on dansait. Et on avait besoin d'expier un petit peu tout ça, quoi. Il y avait comme une zone un petit peu de chamanisme. On était toujours entre... Il y a toujours une petite part de mysticisme qui traîne quand on tourne. Et là, je ne sais pas, il y avait une charge. On savait qu'on n'était pas seul sur ce terrain de la cloche. Après, c'est des scènes qui sont évidemment extrêmement préparées techniquement, voilà, avec évidemment un découpage au préalable et tout ça. Et, donc, et puis l'aide des effets visuels, évidemment.
Et des comédiens qui sont quand même assez incroyables, parce qu'on parle évidemment d'Enzo et de ce qu'il fait, mais vous êtes allé chercher, et au-delà du cast de ceux qui sont dans la plantation, Olivier Gourmet, qui est un grand nom du cinéma et de la télévision, et moi je trouve, je pense que ça fait partie de ces comédiens, on leur donnerait le bottin à lire, qu'ils arriveraient à nous passionner.
Complètement.
Mais vous êtes allé chercher dans le camp des esclaves, vous êtes allé chercher des vraies figures, des vraies personnalités, des vraies gueules. C'était important qu'on n'ait pas l'air d'avoir dans... notamment les esclaves, des têtes d'affiche, des gens auxquels on puisse reconnaître en un mot,
bref,
qu'on puisse s'identifier à eux.
Oui, oui, c'était important. Et puis surtout, ce qui était important, c'est que ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir une majorité d'acteurs locaux. Et donc, on a été chercher des gens comme Lolita Terjamina, qui est une grande actrice locale, très investie, avec un grand, grand professionnalisme. Et puis, elle est super, Lolita. Et après, derrière, en fait, on a aussi fabriqué ce casting avec Eugénie Godel, qui était la responsable de casting sur place, qui connaissait très bien, qui est réunionnaise, qui vit là-bas et tout ça, et qui connaissait très bien les acteurs. On a aussi été chercher, parce qu'à un moment donné, on avait besoin de beaucoup de personnages. Il y a tout un tas de... La majorité des personnages sont joués par des non-acteurs et des non-professionnels. Et ça, je pense que ça a ramené une vraie puissance d'humanité et de partage, parce que tout le monde était extrêmement enthousiaste à l'idée de partager à ce projet, avec cette responsabilité de parler de leur héritage. Et ça a ramené une dimension assez folle, parce qu'ils n'avaient aucune notion de ce qu'était un plateau de tournage. Ils comprenaient... Je me rappelle d'une fois, Precia Gaiano, qui joue Thérèse dans la série, qui est infirmière dans la vie, qui n'a jamais fait ça. Elle me disait, moi, je ne comprenais rien. Quand vous disiez Dolly, passe le 40, il n'y a pas le point. Elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce langage absurde? Mais du coup, ils ne se rendaient pas compte de ce qui était fabriqué. Et ils étaient juste vraiment là, dans le moment présent, et de la situation, juste de vivre la situation. Et ça, c'était assez génial de voir des acteurs professionnels comme... du gabarit d'Olivier ou d'Elsa Le Poivre et tout ça, venir se mélanger à des gens pour qui c'était la première fois sur un plateau. Et puis c'est fou, la première fois sur un plateau, tout le monde s'en souvient de son premier tournage, tu t'en souviens à vie, quoi. Il y a un truc et ça, c'était, je sais pas, ça a créé un truc assez enfin, très très beau.
Mais... Et c'est là, je fais une petite parenthèse militant, mais que je trouve extrêmement importante, parce que tout le monde sait l'appétit et l'affection que j'ai pour la fiction quotidienne, que je défends ardemment. Et je trouve qu'à celles et ceux qui pensent toujours que la fiction quotidienne ne produit que des choses bas de gamme et de mauvaise qualité, je souligne que Alain Moreau, si je ne me trompe pas, a fait ses gammes sur Demain nous appartient en tant qu'auteur, et que toi, évidemment, le grand public t'a découvert aussi par Demain nous appartient. Et quand on voit ce que ça produit d'avoir été formé à l'école de la quotidienne, je pense qu'il faut qu'on arrête un tout petit peu de taper dessus, parce que, à la fois chez les auteurs comme chez les comédiens, c'est une formidable école qui permet de sortir le meilleur, et ça se voit vraiment sur cette série. Donc je tenais à le dire, parce que c'est vrai qu'on tape souvent dessus, et moi je suis persuadé que les plus grands peuvent sortir de là. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, hein, ça a été un vrai exemple. Mais justement, est-ce que ce travail de rapidité, d'efficacité que tu expérimentes sur Demain nous appartient tout le temps, ça aide sur ce genre de tournage où, paradoxalement, comme le disait Laure, on prend son temps?
Bah, en fait, bien sûr, dans tous les cas, moi je suis sorti déjà d'une école à Montpellier où on avait un rythme.
Le plateau.
Voilà, c'est ça, le plateau. On avait assez un rythme de travail assez important, beaucoup de jeux face cam, beaucoup d'art dramatique. Dès que je suis sorti de l'école, j'ai fait quelques petits tournages et puis boum, la quotidienne. Donc ça a été vraiment. Ça a été dingue, parce que oui, c'est vrai que la quotidienne, on s'y attend pas. On se dit, ah, un tournage, machin, tu te manges 6 séquences par jour du lundi au vendredi. Faut les assumer, faut les assurer. Et quand on arrive sur Enchaîné, j'ai appris tout un tas de choses. Mais c'est vrai que ces bagages que j'avais un peu, ça m'a permis peut-être inconsciemment de tenir le coup, quoi, quand même, d'être habitué à un certain rythme, donc de pouvoir m'adapter, en fait. Je pense que ça m'a servi, comment dire, ça, c'est une école, quoi. Quand on est obligé d'avoir 50 000 textes dans la tronche et de les sortir, de jouer des émotions, c'est fou, parce que voilà, des fois sur 6 séquences, tu peux pleurer, crier, et là tout d'un coup c'est comédie. Donc quand on arrive sur un projet hyper important comme Enchaîné, bah, là où j'ai appris, c'est vraiment aussi avec les gens, quoi, qui m'entouraient beaucoup, bah, avec Laure, avec la technique, Olivier. Moi j'ai passé mon temps aller regarder comme ça, dire là, observer, dire ah ouais, ah d'accord, comme ça, donc ok, très bien, ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que oui, ça m'a servi, que ce soit mes années d'école ou même le rythme d'usine, je dirais, de Demain nous appartient, ça forcément ça forge quelque part.
Et c'est important, tu l'as cité, le plateau. Il se passe beaucoup de choses autour de cette école. Il y a une vraie vivier de comédiens qui sort de ce plateau, qui se répartit dans les productions. Alors essentiellement dans le sud, beaucoup de fiction, oui, quotidien, mais il y a dans les fictions quotidiennes, je pense à l'équipe, j'ai une vraie pensée pour eux, de l'équipe de Nouveaux Jours sur M6, oui, qui en ont bavé l'année dernière et que ça n'a pas été facile. Vrai. Mais pareil, de très très bonnes comédiennes et comédiens qui sont sortis de ce vivier-là. Et c'est intéressant de voir que des réalisateurs comme toi, qui font vraiment pour le coup de la fiction, qui n'a rien à voir avec de la fiction quotidienne, ne rechignent pas à aller chercher des talents de ce côté-là. Certains font le chemin inverse. Je pense à Lisa Esdeen, qui a commencé avec toi dans La Promesse et puis qu'on a découvert après dans Demain nous appartient. Mais ouais, tu ne rechignes pas, tu vas chercher les talents où ils sont et pas en te bouchant
les
quoi.
J'exècre les cases, ouais, j'exècre ça, et je trouve que c'est une un des grands dangers de notre métier, c'est qu'on passe notre temps à nous mettre dans des cases. Donc l'enjeu, c'est de toujours en sortir, et qu'il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement à avoir, quoi. Nous, moi, je recherche des acteurs, et donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre d'une technicité, d'une énergie et d'une forme d'humanité aussi. Du coup, voilà, Enzo, il a fait le chemin classique des essais. On a vu beaucoup, beaucoup de, d'acteurs pour ce rôle-là.
Et en quoi il était Isaac?
Ah ben, il m'a payé, évidemment. Il m'a fait un chèque, il sait que j'aime bien boire des coups, on a été boire des cocktails.
Ouais, oui, non, on le sait.
Il a été très malin, attention, très, très malin. Non, mais il y avait cette fragilité-là.
Il n'est pas là, donc on peut lui dire, mais il est quand même assez bluffant dans cette série. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, il y a plein de comédiens confirmés à l'intérieur qui sont incroyables, mais quand je l'ai vu, moi, j'ai été fasciné par ce qu'il était capable de faire. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas évident, parce que c'est, on le disait, c'est une charge d'être à ce point... Le moteur de toutes les actions de la série, de tout ce qui se passe, etc. Donc, c'est incroyable.
Ouais. Bah non, mais Enzo, il a cette humanité-là. Il y a une forme de fragilité, d'extrême sensibilité, et qui, pour moi, sont des immenses qualités. Pour moi, un acteur, une actrice, c'est un vecteur d'émotion. C'est un être quasi médiumnique qui doit à la fois se laisser... traversé par des émotions tout en ayant des directions et tout ça, et donc on a tout de suite senti chez Enzo qu'il avait à la fois cette malléabilité là probablement d'ailleurs due à cette expérience de beaucoup tourner sur cette quotidienne, mais en vrai il y avait aussi ce, je sais pas, il y avait quelque chose dans son regard qui disait beaucoup même sans les mots, et il y a une évidence comme ça assez rapide, donc on l'a vu, on l'a tout de suite dit ok, c'est bon, on l'a trouvé.
Voilà.
Et en plus, il est arrivé assez tardivement dans le casting. On avait déjà vu pas mal de monde et on était un peu en train de dire oh, ça commence à être complicado. Et Enzo est arrivé et on a fait ah, ok, c'est bon, on a Isaac. Ouais.
On peut y aller, on peut partir, on peut se lancer. Je l'ai dit, le tournage qui a été compliqué parce que je crois qu'il y a un cyclone qui a frappé l'île de la Réunion. Je crois que vous veniez d'arriver depuis pas très très longtemps, quoi. Donc j'imagine compliqué en termes de décoration. Et de tout ce qui se passe sur place. Je salue, j'en profite pour saluer les équipes de production, notamment d'Alexandre Boyer qui a accompagné ce projet depuis très très longtemps.
Et on sait
chez Tetra Media combien ils accompagnent ce genre de projet. Chaque épisode a été pensé quasiment comme une petite unité visuelle à part. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, un moment important qui vous a retenu? Moi, j'ai déjà un épisode que j'aime beaucoup.
C'est
je clair. Crois le quatrième, qui est la révolte des esclaves. Ouais. Parce que qui a été quasiment pensé comme un petit film d'horreur en tant que tel, que je trouve fascinant quand vous êtes tous derrière la porte et qu'on voit les esclaves qui arrivent en tenant en otage l'un des membres de la plantation. Et c'est terrifiant parce qu'on arrive à ce moment-là à basculer du côté des oppresseurs malgré nous, parce qu'on a peur aussi pour ce qui va lui arriver, alors qu'en fait, c'est juste des gens qui sont en train de se révolter et d'essayer. Donc ça nous questionne aussi, c'est perturbant. Il y a un autre moment qui vous a...
Quand vous dites moment, c'est personnellement, en tant que moi et pas, pas dans la série. Parce que bon, c'est ce que je disais récemment en interview, c'est que j'ai vu les deux premiers épisodes, mais j'ai pas vu le reste. Alors j'ai que des bribes de souvenirs.
Envoie, d'ailleurs.
Et ce que j'explique, ça peut paraître un peu bizarre, mais faut pas s'inquiéter. C'est qu'il y a un moment donné pendant cette expérience où... une espèce de dissociation, quoi, limite un peu schizophrénique, où tu laisses ton corps à ce personnage. Et il y a des trucs dont je me souviens, mais comme si voilà, il me l'avait raconté, quoi. Comme si Isaac me l'avait raconté. C'est un peu bizarre à expliquer.
Non, mais je comprends.
Donc, dissociation.
Voilà, un peu bizarre comme ça, mais...
C'est bien de se protéger aussi de tout ce qui arrive dans la série.
Ouais,
aussi.
Et puis voilà, et après, je retrouve vite mon corps quand on fait la fête et quand on danse et quand on se détend, évidemment, mais dans ces moments hyper intenses... où il y en a eu beaucoup d'ailleurs, je laissais mon corps à cette entité-là, à cette autre, à cette âme que j'avais appris à forger. Mais sinon, j'ai aimé tous les... Là, jusqu'à la moindre seconde des moments que j'ai passé là-bas.
C'est compliqué, bon.
Il y a plein de moments, je sais pas, je dirais peut-être... c'est vrai que c'est... Là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais... le moment où on a tourné...
Spoil pas trop, hein, attention.
Ouais,
hein.
C'est vrai, cette espèce de moment où je suis avec Baptiste pendant la révolte. C'est vrai que ça a été intense. On avait chaud. On avait tellement chaud. On était en train d'haleter, limite. On était pas bien. Et après, il y a eu le moment où c'était la fin et tout le monde allait se doucher parce qu'on prenait des douches sur le tournage. Et ma première vraie... vraie rencontre avec Olivier, c'était fabuleux. C'était fabuleux. C'était la baston pour les douches, quoi. Mais c'était génial. Mais c'était génial.
On
donc,
fait pas ouais, quoi avec Olivier Gourbet. On essaie de pas se frotter trop.
Non, 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 c'est sûr.
Même
c'est
moi,
sûr.
J'y irais pas.
C'est,
hein,
sûr.
Donc,
c'est sûr. Non, mais il y a plein de moments. Il y a tellement. Toutes les secondes que j'ai pu passer là-bas, c'est un souvenir merveilleux, franchement.
Et je précise, parce qu'on t'a mis mal à l'aise tout à l'heure en parlant de toi, comme si tu n'étais pas là, mais je voudrais saluer aussi l'incroyable travail qu'a fait Laure, parce que
bien sûr.
Être capable de produire ce genre de choses avec, on sait, l'économie et les moyens et la rapidité qu'on impose aujourd'hui en télévision, et de produire une fiction de cette qualité-là aujourd'hui, de réaliser une fiction de cette qualité-là aujourd'hui, de produire les plans que vous avez produits, même en prenant plus de temps peut-être qu'ailleurs, vous le verrez, parce que j'essaie de pas spoiler, j'avais commencé à trop spoiler, mais vous verrez, les derniers instants du 6e épisode sont d'une beauté incroyable dans la manière dont c'est filmé. Vraiment, il y a quelque chose d'assez incroyable, mais vraiment, c'est le travail d'une très très grande réalisatrice, donc c'est important de le souligner. Et il y a un poste que je voudrais qu'on mentionne, qui est très important, c'est celui de la musique. Audrey Ismail, évidemment, est une compositrice qu'on suit beaucoup. Elle a beaucoup travaillé cette année avec un réalisateur qu'on aime beaucoup ici, qui est David Ourek, mais elle s'est aussi centrée sur cette composition. La BO est sortie déjà depuis quelques jours. Il y a un titre que vous entendrez dans la série, mais qui sera que musical dans la série, que je voudrais vous faire dans la bio pardon et que je voudrais vous faire entendre. C'est un petit extrait justement de ce chant qui a été composé pour la révolte des esclaves sur le
dis à moi Seigneur mon île, mon paradis, veille si nous Seigneur nous mamaïs sortant pour tant aussi. Napi pays, dis à moi Seigneur, la misère dans nos cœurs, nos paradis. Reste nous Seigneur, la paix vibre nos cœurs, l'amour aussi.
Je crois qu'on l'entend dans le deuxième épisode, si je me trompe pas, cette chanson-là. Là, c'est à partir de là vraiment que vous m'avez cueilli. Définitivement, et en tout cas que le sens de là, quand je la entends, j'ai encore des frissons. C'est un moment qui est d'une extrême force, cette composition de cette chanson, où les esclaves se mettent à chanter sous le soleil de la Réunion, opprimés par le commandeur qui est à côté.
Oui, il y a deux moments dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2.
C'est ça, ouais.
Il y a deux chants, effectivement, qui sont à la base des... Enfin, l'idée, c'était de s'inspirer des Maloyas, qui sont des chants que les esclaves chantaient pour se donner du courage, pour se rebeller, pour chanter leur joie aussi. Et donc avec Audrey, qui est réunionnaise elle-même, on avait très envie de repartir un petit peu sur ces sons natifs et de travailler avec ce qui se faisait à l'époque, tant au niveau des instruments que des voix. Et puis c'était d'une certaine manière aussi rendre encore plus d'humanité, leur redonner une place d'égal à égal, en tout cas, dit tendre, hein, parce qu'on y est très très loin de l'égal à égal, mais en tout cas de leur redonner un petit peu de dignité et d'espace de parole, ce qui était évidemment pas du tout le cas à l'époque.
C'est un moment
et
qui...
ça ramène et de la poésie, et puis j'ai l'impression que
force.
Ça donne, oui, ça ramène, oui, ça réancre aussi dans l'époque.
Et puis il y a ce martèlement de l'instrument qui est juste derrière, qui, ouais, quand même vous fait
qui
dire...
annonce le début, ouais, d'une guerre. Il faut savoir qu'on est en 1806, en 1812 a eu lieu une des plus grandes, la première grande révolte d'esclaves à Saint-Leu. Et donc en 1806, c'est vraiment les prémices de cette rumeur qui court dans les différentes habitations de l'île, en train de se dire il y a une possibilité de vivre autrement. Il semblerait qu'il y a un ailleurs possible dans les hauts et que certains esclaves arrivent à vivre libres. Voilà.
Qu'on appelle les marrons, que moi je ne connaissais pas.
Marrons, voilà, exactement.
Et que j'ai découvert et qu'on entreaperçoit. Pardon, tu me tends une perche. T'as envie d'exploiter, ouais, cette révolte? T'aurais envie de la mettre en image?
La révolte de 1100. Ouais, oui, ça doit être un truc fou à faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah là, nous, on est dans les prémices. Et puis, c'était pas du tout l'idée, encore une fois, d'Alain, de parler, encore une fois, de faire une série historique et purement historique, quoi. Mais il y a plein de choses incroyables qui sont passées sur cette île à ce moment-là, quoi. Et évidemment, on a envie de mettre cette révolte en avant parce qu'en plus elle résonne étrangement, évidemment, avec aujourd'hui, quoi. Il faut se battre pour garder une espèce de liberté.
Et les Marrons ont été les premiers peuplements, notamment des hauteurs de l'île de la Réunion.
Absolument.
Vous entendrez parler notamment à plusieurs reprises dans la série, mais notamment dans ce point culminant du sixième épisode. Avant de refermer cette émission, je voudrais évidemment apporter un petit complément à ce qu'on s'est dit. C'est notre séquence où on retourne dans le passé, notamment de la fiction, avec notre hashtag replay. Et je voudrais vous intéresser à une fiction qui a été évidemment extrêmement importante, une fiction américaine, et que moi a forcément évoqué enchaîné d'une certaine manière, parce que s'intéresser à l'esclavage de manière brutale, frontale et sans compromis, la télévision américaine évidemment l'a fait et s'en est emparée à la fin des années 70 avec l'une des plus grandes séries américaines qui soit. Je vous propose de vous replonger dans un petit bout du générique. Ça s'appelait Racine, Roots en version originale, et si vous ne connaissez pas, c'est une série qu'il faut évidemment découvrir. Regardez un petit extrait du générique. De dessin et comme si c'était des images d'archives dans laquelle on va épuiser. On va voir apparaître peut-être la photo de ce héros qui est devenu une figure un peu représentative, Kunta Kinte, qui est le héros de Racine, cet esclave dont on s'est emparé sur ces terres d'Afrique pour l'emmener sur les plantations américaines et qui va devenir une figure importante dans la représentation culturelle. Et c'est vrai que voilà, quand on pense à Isaac, quand on pense à ce personnage dans Enchaîné, on pense à Kunta Kinte, qui est ce personnage qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué. Et on espère, en tout cas, le même trajet à enchaîner, en tout cas, dans cette importance-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui ont traité de l'esclavage en France. Donc, on espère que ça fasse écho, puisqu'elle sort, je crois, en même temps que les commémorations de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, si je ne me trompe pas.
Absolument, ouais, on est sur la même période, exactement. Et je voulais juste, pardon, hein,
mais
du coup, parce que tu mettais en avant mon travail et je te remercie, mais je voudrais quand même souligner que, qu'évidemment, moi toute seule, je ne fais rien et que c'est aussi le travail d'une toute une équipe technique évidemment. Et de chefs de poste qui m'accompagnent depuis longtemps. Je pense évidemment à Benjamin Louet, mon chef opérateur, à Denis Seglan, le chef décorateur, à Emmanuel Pertus, la chef costumière, à Laurent Cerclus, mon ingé son, et à tous les assistants mise en scène et tout ça. C'est vraiment un travail collectif qui fait que c'est possible justement de faire des séries comme ça et que sans eux, je ne ferais pas grand-chose. Donc voilà, et je leur dois énormément beaucoup et voilà, je voulais juste signer
évidemment,
cette merveilleuse équipe.
Enchaîné sur France.tv depuis le 30 avril, disponible évidemment ensuite sur France 2 les 6 et 13 mai prochains en prime time. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fiction de service public qui montre la nécessité effectivement de préserver cette grande et belle fiction qui a du sens et qui donne du sens à ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'on avait envie de vraiment la mettre en avant et de souligner évidemment le travail qui est fait aussi au sein des conseillers de programme chez France Télévisions qui
absolument
valident ce genre de projet et qui auraient pu juste continuer à faire des fictions efficaces et qui ont choisi de mettre en avant ce genre de programme. Et puis évidemment les équipes de Tetra Media aussi qui font depuis 20 ans maintenant, notamment avec France Télé, un vrai boulot pour aller regarder l'histoire d'une autre manière. Et puis je voudrais terminer vraiment en me tournant vers toi parce que voilà, moi je pense que si on peut retenir que la télévision est capable d'apporter de grands acteurs et de grandes actrices, je pense que tu peux en être une très très belle illustration et que je pense que les gens vont le découvrir avec cette série comme ils l'ont découvert en son temps avec une autre membre de l'équipe, Dakota Frompier, qui est avec vous dans cette série et qu'on aime aussi beaucoup et qu'on a vu dans La Nuit du 12 notamment qui a été magnifique. Mais avec toi, je pense que voilà, on a une belle génération de comédiens brillants qui vont commencer à émerger et qu'on espère voir continuer à avancer. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à
tous les deux. Merci aux équipes de France Télévisions, notamment à Patricia qui était en régie, d'avoir permis de faire cette émission. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un sujet un petit peu particulier en ce 8 mai. mais on avait aussi envie de donner la parole à celles et ceux, bah, parfois on donne la parole souvent même dans cette émission à tous celles et ceux qui ont des projets de séries qui arrivent, mais qu'est-ce que c'est quand on est un jeune ou une jeune intermittente du spectacle et qu'on est en avant et qu'on attend que ces projets ils arrivent et que parfois on le vit pas forcément toujours très bien, et bien on va donner la parole à l'une d'entre elles, vous allez voir, avec un très très beau message que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Mon petit doigt me dit que peut-être même que notre amie Enzo la connaît un petit peu. On va voir. Elle nous attend la semaine prochaine dans le plateau de la Loi des Séries. Merci de nous retrouver la semaine prochaine et à très très vite pour un nouveau numéro de la Loi des Séries.